12 mars 1986.
Et cependant, nous reconnaissons que le choix implique quelque chose de particulier, toute une gamme qui implique le moyen. Alors comment se fait-il que le choix implique toute cette gamme? C'est quand même très curieux. Il y aurait presque une contradiction. On choisit un outil. Quand vous choisissez un outil, c'est un choix. Évidemment, ce choix moral est très faible. Quand au début du carême, vous avez choisi telle pénitence plutôt que telle autre, quand vous choisissez de vous coucher à telle heure pour faire un petit effort de veiller, quand vous choisissez de vous lever à l'heure de tout le monde, vous choisissez quand même. Même quand la cloche sonne, le choix est mitigé. Si j'étais seul, je ne me leverais pas à cette heure-là. Mais à cause du poids de la communauté, je choisis. C'est agaçant. C'est un choix mitigé. C'est pas un choix absolu. Si vous êtes seul dans votre petite baraque, vous choisissez beaucoup librement. C'est pour ça que vous aimez mieux être seul, parce que votre choix est beaucoup plus qualitatif. Tandis que quand votre choix, au moment du matin, vous dites, c'est pas très drôle, mais il faut quand même le faire, parce que tout le monde est là, il faut y être. Vous voyez, votre choix est très mitigé. Donc, vous voyez qu'il y a toute une gamme dans le choix. Ça, c'est très intéressant, parce que ça montre que l'acte humain du choix, de l'élection, est un acte qui implique une très grande variété. Depuis le choix de l'ami, qui ne porte pas sur un moyen, jusqu'au choix de tel ou tel bien utile. Et plus vous êtes en dehors du point de vue moral, plus votre choix est contingent. Tandis qu'au contraire, le choix de l'ami, il est très important. Il a un poids particulier. Parce que vous choisissez quelqu'un que vous aimez. Vous choisissez quelqu'un que vous aimez. Alors, vous avez donc le choix de l'ami. Vous avez le choix d'un moyen utile. D'un moyen tout à fait relatif. Vous avez le choix de l'ami. Parce que l'acte de choix implique l'intelligence très présente. L'élection, c'est à la fois un acte d'intelligence qui implique un ordre et puis qui implique un amour. C'est là où l'intelligence est la plus actuelle. C'est là où l'intelligence, d'une certaine manière, mesure mon acte. Je dis d'une certaine manière. Parce que, ordinairement, dans un choix, vous avez toute une multiplicité de moyens que vous pouvez ordonner. Et vous choisissez en fonction d'un ordre. Quand vous dites à quelqu'un, je te choisis au milieu de tous les autres. Et le fiancé qui choisit sa fiancée. Je pourrais en aimer des quantités, mais tu es la seule. Le monde peut crouler, tu es la seule. C'est un choix qui relativise tout le reste. C'est très curieux. L'intelligence est capable de relativiser tous les autres moyens, toutes les autres personnes, pour mettre en lumière ceux ou celles qu'on choisit. Pour mettre en lumière le moyen que vous choisissez. Oui, quand vous êtes un très grand spécialiste, l'intelligence un rôle capital dans le choix. Et c'est à cause de cela, je crois, que le choix peut porter à la fois sur la vie et sur un moyen très relatif. Parce que l'intelligence joue ce rôle très particulier dans le choix. Il y a tout un ordre dans le choix, toute une gamme d'intensité, d'extension. Alors, l'intelligence est capable, quand il s'agit de l'ami, celui que j'aime, celui qui est ma fin, celui que je choisis, l'intelligence est capable de regarder la personne humaine que j'aime comme la personne la plus aimée. Oui, l'ordre de préférence, l'ordre d'estimation. Alors à ce moment-là, le caractère relatif du choix n'est plus à l'égard du bien, mais c'est à l'égard des autres biens. Et vous voyez, ça transforme complètement le choix. Mais c'est toujours quelque chose de relatif. Ah, ça, c'est le propre de l'intelligence. L'intelligence peut faire des transferts, hein, comme on dit aujourd'hui. Et au fond, l'intelligence fait un transfert quand elle choisit l'ami. Ce n'est plus le bien utile que, en lui-même, je relativise en vue de ma fin. Je considère ce bien comme, par rapport aux autres, comme ayant une valeur unique. Et donc, il garde toute sa valeur de personne et d'absolu. Mais relativement aux autres, par rapport aux autres, je le mets comme premier. Et donc, il y a un choix par rapport aux autres. Oui, ça, c'est l'intelligence qui fait ça, c'est très curieux. C'est pour ça que le choix a deux aspects. Il y en a plusieurs, du reste. Il est très multiple, le choix. Le choix a deux aspects, parce que l'élément intellectuel permet de relativiser par rapport aux autres. L'élément affectif permet de relativiser ce que je choisis par rapport à la fin. L'élément intellectuel permet de relativiser le choix par rapport à ma recherche, par rapport à moi-même. C'est le moyen qui est le plus adapté à moi. Ou au contraire, de voir que ce moyen est le plus proche de la fin. Et quand il s'agit de l'ami, ce moyen s'identifie à la fin. Je ne relativise pas l'ami en le choisissant. Au contraire, je le valorise. Je donne donc au choix ce caractère tout à fait particulier. C'est que l'ami devient ce que je choisis de préférence à tous les autres. Et donc l'ami devient le bien le plus parfait. Oui, c'est très curieux, ça. Et c'est très important de saisir ça. C'est très important de saisir que subitement, par le point de vue de l'intelligence, l'ami n'est pas relativisé en lui-même, mais s'il est mis en valeur par rapport aux autres, il devient premier. Et je le choisis en sachant très bien qu'il est premier, je pourrais en choisir d'autres. Et du fait même que je peux en choisir d'autres, je le choisis librement en le mettant en pleine valeur. C'est en ce sens-là que je peux dire que le choix peut porter aussi bien sur un bien relatif que sur un bien absolu. Tu es l'objet de mon choix. Ça ne veut pas dire je te relativise. Tu es l'objet de mon choix parce que par rapport à tous les autres, je te mets en pleine lumière. Par rapport à tous les autres, tu es premier. Tu es celui que j'aime en premier lieu. C'est ça que je choisis. C'est ça que j'aime. Par rapport à tous les autres. Vous voyez donc, c'est très subtil le choisis un ami, c'est l'amour qui mesure l'ordre. Quand je choisis le dernier outil ou la dernière voiture, parce qu'elle est la plus agréable, après toute l'enquête que j'ai faite, c'est l'intelligence qui mesure l'amour. Je crois qu'il faut saisir ça dans le choix et comprendre que le choix est toujours le lieu par excellence où je saisis la liberté. S'il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de choix. Ça, c'est vrai. Dans l'ordre du choix, l'acte volontaire implique nécessairement la liberté. Il n'y a pas d'acte d'amour, de volonté dans le choix qui n'implique pas la volonté, qui n'implique pas la liberté. Les deux se tiennent et les deux sont intimement liés. Volonté et liberté sont intimement liés et se tiennent profondément l'un par rapport à l'autre. Quand il s'agit du choix par excellence, je dis bien le choix par excellence, là où l'amour est le plus préférentiel, là où l'ordre de mon intelligence est entièrement au service de l'amour, c'est le choix de l'ami. C'est bien le choix de l'amour, c'est bien le choix de l'ami qui est le choix maxime étalé. C'est là où le choix apparaît dans toute sa force. Ce choix ne diminue rien de l'intention finale. En choisissant l'ami, je le choisis comme celui qui finalise ma vie humaine. Pas d'une façon absolue, c'est bien évident, mais qui finalise ma vie humaine, ma vie éthique, ma vie responsable. Et en choisissant l'ami, je sais que c'est mon bien avec l'absolu de la fin. Donc vous voyez, c'est ça qui est important dans cette analyse éthique. C'est une analyse qui se fait dans l'immanence de l'amour et qui n'implique aucune extériorité. Si cette analyse impliquait quelque chose d'extérieur, il y aurait contradiction entre le premier amour et le choix. Alors que, parce que cette analyse se fait dans l'immanence de l'aspect volontaire, c'est l'analyse de l'acte volontaire qui est d'abord un amour et qui est ensuite un choix. C'est l'immanence de l'amour volontaire qui se creuse de plus en plus. Et donc, d'une certaine manière, comprenez bien, d'une certaine manière, dans le choix de l'ami, c'est à ce moment-là où l'amour spirituel du point de départ est parfaitement lui-même. C'est ça l'immanence. l'aspect d'indétermination et d'imperfection. Oui, comme c'est important, ça, dans notre vie concrète. Quand nous remettons tout le temps en doute notre choix, ça prouve comme étant en premier lieu l'imperfection et non pas l'acte. Quand on a compris combien le choix seul était l'amour parfait, une fois qu'on a choisi, on continue et on maintient ce choix. Vous voyez la maladie du scrupule. Et la maladie du scrupule, c'est, je crois, quelque chose de terrible. La maladie du scrupule, c'est de ne pas regarder pleinement le choix comme acte humain et comme acte parfait dans l'ordre de l'amour. Une fois qu'on a choisi, on a choisi. Et on continue. Si vous mettez en doute ce choix, en disant peut-être que j'ai mal choisi, au fond, vous n'aimez plus. Et vous maintenez l'attitude d'indétermination. Un acte humain n'est parfaitement d'acte humain que dans le choix. Il est parfait, il n'est parfaitement volontaire que dans le choix. Et toute attitude qui maintient cette espèce de scrupule, de remise en doute, est contraire à l'amour. Bah, une fois qu'on a compris ça, notre volonté est déterminée. C'est pas de l'entêtement, hein. C'est tout simplement être humain. Être humain, c'est maintenir la fidélité dans son choix. La fidélité, elle est dans le choix. Parce que c'est le choix qui représente l'amour volontaire dans toute sa perfection. Et l'amour volontaire dans toute sa perfection réclame la fidélité. Il réclame d'être en acte, toujours. Et l'acte seul peut être parfaitement nécessaire, c'est-à-dire fidèle. La nécessité dans l'ordre de l'amour, c'est la fidélité. C'est quelque chose qui demeure. C'est quelque chose qui dure. Parce que l'amour est au-delà de la contingence. Tandis que quand vous maintenez tout le temps cette attitude réflexive en mettant le doute dans le choix, je dis ça, c'est parce qu'au fond, il y a toute une philosophie qui exalte le doute. Il y a toute une philosophie qui exalte l'indétermination. Et exalter le doute et l'indétermination, c'est tuer l'amour. L'amour réclame le choix actuel et cette détermination. On a choisi en toute lucidité et on maintient ce choix. C'est capital, ça. C'est comme ça qu'on peut mener une vie humaine. Tandis qu'autrement, c'est impossible. Et c'est pour ça que c'est si important de comprendre comment le choix est immanent à ce premier amour. Vous voyez que là, hein, si on saisit un peu ce point de vue-là, on voit que une philosophie qui confond limite et détermination va favoriser ce doute, va chaîne, mais il est libre. Et c'est la grande liberté de ce choix. Mais évidemment, ça demande que l'amour soit parfaitement développé. Mais c'est déjà vrai au point de vue humain, c'est ça qui est très étonnant. Et c'est ça qui est important. Parce que, voyez, si j'entre un peu dans la perspective de ça, dans le choix. Elle n'est pas dans le premier amour. suis conscient et je sais que ce choix est libre. C'est du vécu. Et dans ce vécu, il y a donc ces trois dimensions. Alors, c'est important, vous voyez, de saisir que ce vécu, dans cette forme intentionnelle, affective, de la volonté, implique bien ces trois dimensions. Le bien, la fin, et ce qui est le but du choix. Alors, quand je dis l'utile, attention, le choix peut porter sur la fin. Mais ce n'est plus la fin comme fin que je choisis. C'est la fin en tant qu'elle m'est donnée. C'est l'ami que je choisis en tant qu'il m'est donné, affectivement. Vous voyez bien la différence, hein? Parce qu'autrement, vous ne verriez pas le caractère spécifique. Je vois le point de vue du bien et l'attirance du premier amour. Pas très philosophique, mais c'est amusant. Alors, que vous dites que la fin, c'est avoir, ou est-ce que la fin, c'est l'heure de l'être? Vous allez dire que c'est la synthèse des deux, c'est évident. Vous opposez dialectiquement avoir et être, et vous dites la fin, c'est la synthèse des deux. La fin, c'est à la fois l'être, et en même temps, c'est l'avoir. C'est vrai, il y a les deux. Ce qui montre bien que la distinction être et avoir n'est pas très exhaustive. C'est assez gros. C'est assez gros, c'est amusant. Au point de vue philosophique, ça va pas très loin. Mais c'est amusant, parce que les gens comprennent tout de suite quand vous dites être et avoir, on saura bien. Alors, vous voyez bien que lorsqu'il s'agit du choix, ça porte sur l'utile, donc sur un avoir. Vous voyez la tentation. Quand je choisis mon ami, ah, c'est mon bien que je possède. À ce moment-là, le choix s'oppose dialectiquement à l'amour. Si le choix, c'est toujours pour posséder, je te choisis et je te possède, à ce moment-là, vous tuez l'amour. Parce que dès que vous possédez, vous tuez l'amour. Je comprends, du reste. Hein. Parce que dès que vous êtes à possession de quelqu'un, ça prouve que vous n'êtes plus son bien. Vous êtes dans sa poche. Évidemment, on peut mettre son bien dans sa poche, mais ça c'est...